Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est le cinquième épisode d'Une odeur de poudre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la cocaïne sans jamais oser le demander. Une série d'Adila Benedjaizou qui lève le voile sur des pratiques quotidiennes dont on parle peu mais que l'on voit partout, dans tous les milieux et professions. Une série sans tabou, sans moralisme, ni bien sûr incitation à la consommation, bien au contraire. Une série pour dire comment c'est, comment ça marche, qui en prend, où et quand. Jusque-là, nous avons rencontré des dealers, des consommatrices, on a parlé aussi des drogues de synthèse et puis des overdoses. L'histoire de Maxime, en particulier, mort après avoir consommé de la N-Baum pour la première fois, a beaucoup ému les auditeurs et nous aussi. Tous ces épisodes sont disponibles à l'écoute ou à la réécoute à la page Une odeur de poudre sur le site de France Culture. Tout de suite donc, c'est la suite et ça parle de la cocaïne pour s'amuser et de la cocaïne pour travailler et comment ça se mélange. Ça se passe dans un bar en Belgique, fréquenté par des expatriés. Il y a le patron du bar qui raconte, un ancien barman et un client. Ils ont accepté de raconter comment ils consomment de la cocaïne et combien, sous couvert d'anonymat évidemment. Pendant ce temps, et pour prendre la mesure des choses et leur démesure, s'ouvrait hier à New York le procès d'El Chapo, Joaquim Guzman, considéré comme le plus gros narcotrafiquant après Escobar. Les documents d'accusation font plus de 300 000 pages, il y a 117 000 enregistrements audio et des quantités innombrables de photos et de vidéos. On se souviendra, en écoutant les protagonistes de notre petit bar, que El Chapo, lui, est accusé d'avoir commandité au moins 37 assassinats et d'avoir expédié aux États-Unis plus de 154 tonnes de cocaïne, ainsi que d'énormes quantités d'héroïne, de méthamphétamine et de marijuana pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars. Trois années de suite, en 2009, 2010 et 2011, il a été classé par le magazine Forbes comme un des hommes les plus influents et les plus puissants du monde. Il était le deuxième homme le plus puissant du Mexique et il n'a sûrement jamais entendu parler de ce petit bar de l'autre côté de notre frontière. Un reportage d'Adila Benedjaizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Quand on m'a parlé d'un bar en Belgique où la drogue était gratuite, je n'y ai pas cru. Alors, n'écoutant que ma conscience professionnelle, je suis allée vérifier sur place. Je voulais savoir si cette gratuité créait quelque chose de différent. Je suis arrivée au bar un dimanche soir et je n'en suis ressortie que le lundi soir.
Animateur et organisateur. Organisateur et animateur.
C'est pendant cette faille spatio-temporelle de 24 heures que j'ai fait la connaissance de Jérémy, le patron.
C'est-à-dire que j'anime un lieu, d'une part, et d'autre part, un lieu comme ça, c'est aussi une entreprise, et patron de bar, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, patron de bar, c'est une étiquette, mais ça ne décrit pas du tout en quoi ça consiste. Alors moi je fais partie de ces rares professionnels, enfin rares professionnels, j'exagère sans doute, mais il y a une partie de ma vie où je ne bois pas du tout, où je ne prends pas de drogue du tout, où je ne sors pas du tout, et je considère mon boulot comme un vrai boulot. Et puis il y a une partie de ma vie où, au contraire, je fais ce que je faisais avant, c'est-à-dire je bois, je parle fort, j'ai plaisir à rencontrer des gens, j'essaye de servir de lien entre des gens, j'essaye de communiquer ma bonne vibe. Et dans ce cas-là, oui, évidemment, ça y va.
Est-ce que toi, tu autorises la consommation de drogue dans ton bar ?
Il y a des gens dont je sais que... ils prennent des trucs, et s'ils le font discrètement, j'ai absolument rien à dire, puisque moi-même, notamment le week-end, j'en prends, et j'essaie de faire ça discrètement. Et les gens qui travaillent au bar aussi, d'ailleurs, sont largement invités, s'ils le souhaitent, mais ils le souhaitent, comme prendre des trucs. De toute façon, moi, je partage, parce que la fête se partage, pour moi, c'est de l'essence de la fête. Les gens qui travaillent, eux, ils ont un accès, enfin, je veux dire, ils savent où je range mes trucs et ils y ont accès absolument de façon libre. J'ai une confiance absolue en eux et, enfin, notre mode de fonctionnement, c'est ça. C'est un petit endroit où, en fait, je mets ce qui me paraît être normal comme quantité pour la soirée, enfin, pour le service. Je m'approvisionne à l'avance. En plus, en général, si on s'approvisionne dans des meilleures conditions quand on achète un petit peu plus gros et en prenant, enfin, que c'est pas une commande pour tout de suite, on se fait livrer en dépannage. Et donc, oui, je viens le week-end avec la quantité de 5, 7, 8G, 10G. Et je ramène s'il en reste à la fin. C'est toujours chiant de faire ses courses. Donc, quand c'est fait une fois pour toutes, au moins après, on est tranquille pendant un bon moment. J'ai deux principales sources. Il y en a un qui vient, qui habite pas en Belgique, et qui, on n'est pas loin de la frontière, donc c'est pas difficile. Sinon, il y a un dealer qui habite pas très loin, mais souvent j'achète par 50 grammes. Ça m'est même arrivé d'acheter par 100 grammes.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vendre ?
Non, jamais.
Comment ça se fait ?
C'est juste, je veux pas en faire commerce, quoi, c'est tout.
Mais c'est un budget énorme.
C'est un budget. Les DJ aussi, hein, c'est un budget énorme. Ça fait partie des budgets non négligeables. Mais contrairement à ce qu'on pense, un bar qui fait quelques centaines de milliers d'euros de recettes par an, qui est 20, je sais pas, mettons 20 000 balles par an de drogue, c'est quoi ? C'est quelques pourcents, quoi. C'est pas grand-chose.
Toi, tu penses que tu dépenses à peu près 20 000 balles par an de drogue ?
Ouais, au moins.
Ok, un DJ, ça fait venir. Enfin, c'est censé faire venir des clients, ou les clients en profitent comme tu veux, mais la drogue, c'est moins directement. T'as moins directement des retombées.
Non, pas du tout. Un DJ, c'est pour mettre une certaine ambiance, une certaine atmosphère, une certaine truc. Le fait que les gens qui travaillent au bar donnent l'impression de s'amuser, d'avoir envie de rigoler avec les gens, etc., ça participe au moins autant. Quand on rentre dans un bar, on est saisi par une atmosphère qui est, la musique c'est une chose, mais il y a aussi dans quel état de détente et à quel point les gens ont l'air de s'amuser, de passer du bon temps, de trucs. Et ça, si le personnel est un petit peu froid, un petit peu truc, ça fonctionne pas. Et ça procède aussi du même esprit de, ben voilà, c'est le bar est un lieu de fête. C'est pas les clients qui font la fête et les gens qui travaillent. C'est le bar qui est un lieu de fête. Et puis ben, y en a qui participent en travaillant et puis y en a qui participent en ne travaillant pas. Je vais pas plus loin que ça. Je suis pas dans un secteur concurrentiel où il faut réduire les coûts pour survivre. Je suis dans un secteur où il faut maximiser le plaisir pour survivre. Et notre état psychique est un élément qui est extrêmement important dans l'ambiance du bar.
Et cet état psychique, il ne pourrait pas exister sans drogue ?
En ce qui me concerne, non. Il suffit de venir un jour où il n'y a pas de drogue au bar pour s'en rendre compte.
Ah ouais ? C'est vrai ?
J'exagère à peine. On va naturellement, moins spontanément vers les gens. On rigole moins entre nous. On a plus hâte que ça finisse. On est moins détendu. Enfin, je veux dire, ça se voit. C'est sur notre visage, on est comme les gens qui bossent et qui attendent l'heure de partir.
Sur justement cette consommation, est-ce que tu as l'impression qu'en fin de week-end, plutôt que créer une ambiance, ça ne permet pas uniquement de tenir ?
Ça dépend. C'est vrai que parfois, il peut arriver que les excès que cela génère amènent à un état de fatigue important et que si on qu'on peut pas aller dormir et qu'il faut continuer à tenir, et ben il faut boire plus et prendre plus de coke, c'est vrai.
Allez, coco.
Est-ce que parfois tu te dis que c'est pas bien de faire de la drogue ?
Je force personne, enfin je
sais bien.
Donc c'est chacun, c'est des gens dont je sais qu'ils prennent de la drogue. Je sais que la tentation fait que, effectivement, c'est une incitation passive, mais l'alcool aussi, c'est une incitation passive.
Ouais,
enfin, pour moi, il n'y a pas de différence essentielle entre la consommation d'alcool et la consommation de coke, d'exta. Chaque chose peut être bien si elle est ramenée à une juste place et extrêmement néfaste si elle envahit sur tout le reste. Tout est une question de... bizarre dans ma bouche, de mesure. En tout cas, de place que ça prend dans l'ensemble du paysage.
Toi, tu dirais que tu es dans une addiction avec la cocaïne?
Probablement. Ce qui fait dire que non, c'est que j'ai pas l'impression, enfin, notamment en dehors des soirs où il est clairement établi qu'il va y en avoir et on va en prendre. J'ai absolument aucune envie d'en prendre. Et qu'est-ce qui me fait dire que oui, c'est que bah, quand on a fait ça pendant 15 ans avec une régularité absolue, le jour où ça va s'arrêter, je serais curieux de savoir ce qui va se passer.
France Culture, les pieds sur terre.
Une des choses qui m'a le plus surprise dans ce bar, c'est que tous les employés qui travaillaient le lendemain sont restés avec nous jusqu'au bout de la nuit.
Ce bar a un fonctionnement assez collectiviste, communautariste d'une certaine manière. Souvent de l'extérieur, des gens, des clients nous demandaient si on n'était pas un bar associatif par exemple. Mais à l'intérieur, nous on savait bien qu'il y avait un boss et que nous on était des employés.
Je pense que la phrase que j'ai le plus entendue dans la bouche de Franz, c'est « bon ». Un shot, un trait, et on y va.
J'y atterris très vite comme client dans la première année de son ouverture, je pense. Et j'y étais très bien accueilli. Et puis à un moment, ils étaient en recherche de barman. Ils me savaient, moi, musicien en précarité financière. Et ils m'ont demandé si je pouvais pas dépanner un jour de surchauffe au service. Et j'ai dit oui. Du coup, après, j'y suis resté. Ça a duré 10 ans au moins. J'ai fait barman là-bas 10 ans. J'ai quitté il y a pas longtemps. Je connaissais extrêmement le fonctionnement quand j'y suis allé. Ça m'a même inquiété. Je me souviens, la proposition m'a été faite par téléphone. C'était un jour où ils sentaient qu'ils allaient être débordés. Genre, je sais pas, à 13h, ou le bar ouvrait à 14-15h. Je me souviens avoir raccroché, d'avoir appelé ma copine de l'époque et lui dire, oulala, ils viennent de me demander si je veux pas aller bosser comme barman au bar. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que je vais mettre le doigt dans l'engrenage de l'enfer, là. Elle m'a dit non, vas-y. Ça m'a déculpabilisé. Je me suis dit, bon, allez, let's go. C'est une sorte de cérémonial. Il y avait des jours où le boss mettait à disposition et à discrétion pratiquement dans la réserve un stock dans lequel les employés pouvaient aller taper. Donc ça, c'était les week-ends, les vendredis, samedis et le dimanche. Disons que il y avait des codes de donation qui étaient que à partir de 19h le vendredi, 19h ou 20h le vendredi, le patron mettait dans une planque, dans la réserve, un tas de coke, pour la nommer, qui servait à l'or pour toute la soirée, qu'il rechargeait régulièrement quand le tas s'effritait. En gros, je pense que ça correspondait à 3-4 grammes par soir. Jusqu'à 2h la fin du service, je sais pas, je dirais une fois par heure, on allait prendre un trait. Il y avait des planques, enfin qui n'étaient pas vraiment des planques, sinon c'était sur des DVD. Donc on renouvelait tous les 6 mois parce que le DVD devenait la jaquette devenait si charclée que le titre du film en devenait invisible. Donc de temps en temps on changeait le DVD, mais en gros c'était sur un DVD qui était sur une étagère où il y avait des verres par ailleurs, des verres qui servaient au service qu'on allait chercher quand on était en rade. Mais ça nous... vous aider à bosser, enfin en tout cas on se le dit, c'est toujours un peu vicieux ça, parce que on peut aussi sans, hein, mais en tout cas on en avait une telle habitude que si par exemple des fois pour X raison il n'y en avait pas, tout le monde tirait la gueule à l'intérieur de l'équipe, pour X raison parce qu'il aurait oublié ou parce qu'il n'était pas là ou parce qu'il n'y en avait pas assez ou parce que pour une raison Y il était en rade ou il aurait décidé pour un peu, je sais pas quoi. Après il y a des gens dans l'équipe qui, admirablement, moi je n'en étais pas capable, arrivait ponctuellement, bien que bossant en week-end, à ne pas en prendre. Disons que le problème, c'est qu'on en prenait même quand on n'en avait pas envie. Parce qu'on en avait tout le temps sous le nez. Donc ça, c'est un problème. Moi, nombre de fois où je suis arrivé, par exemple, je bossais vendredi, samedi, dimanche, nombre de fois où je suis arrivé, où je me suis dit, mais là, je ne veux pas avoir une trace sous mon nez, il est hors de question que je boive une goutte d'alcool. Ça me dégoûtait, arrivant au travail, et immanquablement, moi, parce que je suis faible avec ça, je n'ai jamais su, finalement, le temps passant, avançant dans la journée-soirée, je suis allé dans la réserve et je me suis fait un trait pour me requinquer. plein de fois, je me disais que c'était trop. Je le sentais que c'était trop, physiquement, mentalement. Pour la vie de couple, c'est aussi assez destructeur. Mais je suis toujours resté. Le bar fermait à 2h. Puis après, il y avait l'after du post-service. Une fois le bar rideau tiré, ménage fait, on y traînait, on y invitait des amis. Parfois, les DJ y restaient. Et ça faisait des soirées qui pouvaient durer jusqu'au petit matin ou au lendemain. Jusqu'à l'ouverture du lendemain. Parce que ce bar était un point de rendez-vous sans rendez-vous. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont pour sachant qu'ils allaient y trouver quelqu'un. Des gens de l'équipe derrière le comptoir, mais aussi des réseaux d'amis où tout le monde se conglomérait autour de ce bar et que tu pouvais y aller tranquillement. Si tu savais pas quoi faire de ta soirée, t'étais sûr d'y croiser 5-6 potes, voire 10, et puis de t'y amuser. Pour eux, c'était soir de fête. Et si toi, tu fais la gueule, t'as dit, ah non, tu leur dis, moi, non, je bois pas ce soir, comptez pas sur moi pour traîner après et tout. Tout le monde était dégoûté. Il y a une sorte de pression un peu pernicieuse qui est effectivement comme ça, qui existait. Si tu te barrais un vendredi ou un samedi, tout le monde te faisait la gueule. Si tu arrives à tenir le truc de te barrer à 3 du mat, dans l'équipe, au sein de l'équipe ou par le boss, surtout, il était pas rare d'être un peu incriminé, pointé, moqué, sur le mode, ah bah sympa. Ah bah d'accord, bonjour l'ambiance, etc.
C'est combien de prêts ?
Ouais.
Combien de prêts ?
Bah, est-ce que tu en veux ?
Non, moi j'en veux pas.
Sur ce point-là, le bar ne diffère pas d'autres lieux de fête où les gens qui travaillent sont censés faire comme s'ils étaient là par plaisir.
Bah, vas-y, fais ce que tu veux.
Mais à la différence des bars ou des clubs où les employés achètent leur drogue, ici, c'est un genre d'avantage salarial.
Un prêt, ça, c'est une grosse poutrasse.
Un peu comme un ticket restoxico. C'est principalement pour cette libre distribution que le bar a la réputation d'être un repère de cinglés et de drogués. Une réputation qu'Emile, un fidèle client, assume complètement.
Enfin, il y a une espèce de base anarchique dans le fonctionnement. Du truc. Ça a peut-être été moins par la suite, mais dans les tout débuts, il y avait vraiment un truc totalement anarchiste, totalement libertaire dans la conduite de toutes les affaires de cet établissement. C'était un bar de mon quartier, donc je passais devant, j'ai pu y boire un café, mais je l'ai vraiment découvert un jour de fête de la musique, où on a commencé là, ensuite on est parti faire la fête avec la bande du bar, et on y est retourné ensuite, assez longtemps. Après, très honnêtement, la vraie révélation du grand n'importe quoi de cet établissement, c'est quand on est revenu, après être sorti dans différents clubs, je sais plus où c'était, mais on était revenu au bar au petit matin. Mais là donc Jérémy faisait la tournée de tous les gens qui étaient dans le bar, il devait y avoir une quarantaine de personnes. Il se mettait devant les gens, il leur disait « qu'est-ce que tu veux comme alcool, qu'est-ce que tu veux comme drogue ?» Ce qui était une forme de convivialité, j'ai trouvé, qui était un peu au-delà de ce que j'avais jusque-là connu dans un établissement moyen. Et jusqu'à ces moments assez délicieux où l'équipe était alors là vraiment plus du tout, ce jour-là je me souviens plus si c'était le cas, mais plus personne de l'équipe n'était du tout en état de faire quoi que ce soit. Et ces grands moments où ils avaient posé une sorte de tronc sur le bar en expliquant aux gens avec un petit écriteau sur une ardoise, en raison d'un problème, l'équipe n'est pas à même d'assurer une cacahuète, donc servez-vous et mettez les sous dans le tronc. Voilà, j'ai rarement vu ça ailleurs. Parce que je naviguais déjà dans des environnements sociaux où les consommations faisaient partie de la vie un peu quotidienne, donc c'était pas révolutionnaire. Non, ce qui était marrant, c'était de voir ce truc qui est quand même un endroit avec pignon sur rue. On n'est pas sur un truc fermé, on n'est pas sur un truc interdit, on n'est pas sur un truc privé.
Et comment ça se passe, le mélange entre les clients qui sont drogués et les clients qui sont pas drogués?
Il y a des interactions, il y a des échanges, je veux dire que quand on est dans un bar de cette dimension-là, on interagit avec tout le monde. J'ai pu entendre des gens qui disaient, en même temps, si t'es pas copain avec les gens ou si t'es pas dans le truc, c'est pas un établissement particulièrement sympa. Le fait qu'on soit nous dans ce truc d'interaction permanente, vachement, et en partie grâce aux produits qu'on consommait, ça pouvait exclure ceux qui n'en faisaient pas partie. les règles sont extrêmement strictes dans cet établissement. C'est-à-dire que les gens qui travaillent ont le droit d'accéder à la réserve. Les gens qui sont derrière le bar, les gens qui mixent, etc. Enfin, toutes les personnes qui sont impliquées dans la soirée peuvent accéder à cette réserve où là, on peut facilement consommer un petit trait de cocaïne. Et pour le reste, tout se fait de manière à l'arrache, comme dans n'importe quel bar, c'est-à-dire dans les toilettes. Simplement, effectivement, les toilettes sont souvent une queue qui est un peu plus impressionnante que dans d'autres établissements. Mais voilà, bon, si j'allais y mixer, un soir où j'y mixais, j'avais le droit d'aller à la réserve et consommer aussi avec les produits qui étaient fournis par l'établissement. Alors que si j'y allais un jour sans mixer, j'allais me débrouiller moi-même avec mon propre paquet dans les toilettes. J'aime beaucoup cette idée qu'il y ait des règles très strictes dans un bordel pareil.
Moi, parfois, ça m'est arrivé quand j'étais là de voir des gens qui étaient là clairement pour consommer.
Ouais, c'est vrai que c'est le truc dont j'ai pas parlé, c'est la pré-fermeture en fait. Okay. En fait, après la fermeture, donc il y a ce moment où tout le monde range et met les chaises sur les tables, etc. Et t'as aussi après souvent quelques heures pendant lesquelles c'est un peu plus open bar, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'équipe, mais Jérémy arrose un peu tous les gens qui sont présents, pas forcément tous, mais enfin on fait quelques tournées de coke dans la réserve. Et ça, effectivement, j'ai vu des fois des gens qui avaient un peu tendance à arriver juste avant la fermeture et à mettre le pied dans la porte pour essayer de rester, quoi. Il y en a eu comme ça. Je pense que Jérémy a toujours bien géré ça parce qu'il est assez clairvoyant sur les gens, tu vois. Donc, bon, ok, lui, il est là pour ça. Et ben, je vais lui en faire trois, mais la prochaine fois, il ira se faire foutre, quoi. Les gens qui étaient là que pour ça, ils s'étaient repérés, quoi.
Selon toi, qu'est-ce que ça a créé de spécifique, ce fonctionnement ? Du bar.
Ça crée quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que on est aussi dans un endroit où aucune des personnes derrière le bar ne fait que ça. On a des musiciens, on a des photographes, on a des comédiens, on a genre, que sais-je. Je pense que c'est pas juste le fait d'avoir une certaine liberté et partager ce truc de consommation de cocaïne. Elle crée quelque chose de spécifique, mais c'est pas suffisant. C'est un des ciments, c'est-à-dire que c'est une pratique qui est hors la loi, mais qu'il y a toujours eu un truc dans la consommation de drogue qui te rapproche. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu partages le fait de consommer une drogue, t'as ce truc-là d'être un peu complice. Tu vois, il y a une complicité, mais au sens de vraiment le terme de complicité judiciaire, et qui devient une complicité au-delà, une complicité sociale. Je pense que ça joue, ouais, bien sûr. C'est un des ciments. Après, il y a aussi la musique. Il y a la musique électronique beaucoup. Bon, après, musique et drogue, c'est un truc qui va assez bien ensemble, je te cache pas.
Est-ce que tu dirais que ça t'a changé de fréquenter ce bar ?
Complètement. Ah, mais vraiment, de manière importante. Alors, est-ce que j'aurais changé dans le même sens ? Je veux dire, ça fait tellement 10 ans que je fréquente cette bande et cet endroit, que comment savoir comment je serais aujourd'hui sans ça ? C'est tellement important. Après, peut-être que je serais le même. Mais en tout cas, moi, je me sens vraiment très différent d'il y a 10 ou 13 ans, et en grande partie avec cette bande, avec ces gens, avec cette émulation, avec ce grand n'importe quoi, avec et cette grande intelligence.
Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Peut-être une espèce d'assurance dans le n'importe quoi. Un truc qui fait que, ok, on est différent, et ben c'est une super force, et on vous emmerde. Il y a un truc comme ça. C'est pas parce qu'on est à la marge socialement pour ce truc de consommation, pour ce truc d'horaire, pour ce truc de musique que personne n'écoute, parce que c'est communautaire, parce que c'est... Mais on est du coup hyper fort, quoi.
À la tombée de la nuit, il entre dans les maisons. mon petit ange, ferme bien les yeux. Le marchand de poudre blanche est un vieux monsieur. Il ressemble à ce roi mage de nos beaux livres d'images. Sans que tu t'en aperçoives, il déposera. Cette nuit, tu peux faire de beaux rêves, ne sois pas inquiet.
C'était Une odeur de poudre, cinquième épisode, Cocaïne au comptoir, un reportage d'Adila Benedjaizou, réalisé par Clémence Gross avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Cet épisode a été illustré sur le site et sur les réseaux sociaux par Rose Vidal, Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, Camille Richir, c'est notre stagiaire. Et si vous voulez écouter ou réécouter les épisodes précédents d'Une odeur de poudre, il y a une page, il suffit de taper Une odeur de poudre France Culture et vous aurez disponible tous les épisodes précédents.